about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Marie-Josée Sirach et René Solis se font face à notre affiche Les Frères Karamazov, d'après le roman de Fédor Dostoïevski, mise en scène Franck Castorf, c'est à la MC93, à la friche industrielle Babcock, à la Courneuve. C'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Nous parlerons aussi de Réparer les vivants, d'après le roman de Maëlys de Kerangal, adaptation, mise en scène et interprétation Emmanuel Noblet, en ce moment à l'affiche du Théâtre du Rond-Point à Paris, et puis une très longue tournée toute cette saison. Au cours de cette émission, vers 21h20, Lucille Comeau nous invitera dans son petit salon. De plus, Lucille passera en fin d'émission un coup de fil à Jean-Paul Angot, directeur de la MC2, scène nationale de Grenoble, et président du réseau des scènes nationales. Bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des exemplaires de France Culture papier numéro 19, avec pour thématique centrale la création et les idées, le dernier mystère, le France Culture papier, actuellement en kiosque et en librairie. Et nous ouvrons cette dispute avec l'ouverture, justement, de la saison pour la MC93 et sa nouvelle directrice Hortense Archambault, l'ancienne co-directrice du Festival d'Avignon. Ouverture également du Festival d'automne et ouverture enfin d'un nouveau lieu. La MC93 étant en travaux, c'est à la friche industrielle Babcock à la Courneuve, un lieu à la mesure, ou plutôt à la démesure du metteur en scène allemand Franck Castorf, qu'on peut découvrir sa vision des frères Karamazov, d'après Dostoïevski, une production qu'il a créée en 2015 à Vienne avec sa troupe de la Volksbühne, à laquelle s'est greffée depuis quelques temps déjà la française Jeanne Balibar. Petit rappel quand même sur la fratrie, Alexei ou Alyosha, le Benjamin, fervent croyant, mais se posant quand même quelques questions. Ivan, le deuxième fils, intellectuel, matérialiste, qui veut savoir si en l'absence de Dieu, tout est permis. Dimitri, selon Dostoïevski, l'homme russe, celui en qui le vice et la vertu se livrent un combat acharné, ce qui n'a rien de bon pour la santé mentale de Dimitri. Puis enfin, il y a Smerdiakov, le bâtard, dont la sonorité du nom en français rend bien l'idée russe, puisque Smerdit veut dire puer. Fin du cours de russe, parmi ses frères, un parricide.
Wasser trägt er nicht als Sohn und unter keinen Umständen, keine Minute länger.
Das ist unmöglich! Unmöglich!
Mais voilà pour un extrait assez représentatif, me semble-t-il, de ces 6h15 de spectacle. Là, on est quand même plutôt sur la première partie de ces frères Karamazov. Alors, Pour rappel, on a évoqué dans la première émission de cette dispute nouvelle saison le Karamazov de Jean Bellorini, présenté au Festival d'Avignon l'été dernier dans la carrière de Boulbon, qui sera repris à partir du mois de janvier. D'abord au théâtre Gérard Philippe, le théâtre dont Jean Bellorini est directeur, puis une tournée à suivre. On s'était d'ailleurs interrogé, et le metteur en scène, le premier, sur un possible travail supplémentaire à faire sur cette adaptation que beaucoup de gens ont pu voir aussi à la télévision, puisque ça a été diffusé sur Arte, ce Karamazov-là. On peut dire déjà qu'on en est quand même assez loin. La comparaison, là, ne serait vraiment pas raison, Marie-Joëlle Sirach.
Oui, comparaison n'est pas raison. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est la proximité des deux propositions dans le temps, même si celle de Castorf précède celle de Bellorini, puisqu'elle a été créée en 2005 et qu'elle n'arrive chez nous que...
15 ans. Marie-Josée.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
2005,
non, c'est peut-être pas tant.
Vous voulez nous rajeunir, ce qui est gentil, mais...
Oui, oui. Non, 2015, donc, elle arrive une bonne année plus tard. Ce qui était étonnant, d'abord, c'est le lieu. C'est vrai qu'il faut saluer ce lieu. Je ne sais pas s'il va perdurer, les usines Babcock, mais en tout cas, c'est un lieu assez magique, assez beau, monumental, impressionnant, imposant.
Très grand. Votre article de ce matin dans l'Humanité, vous avez des chiffres. Alors, vous pouvez peut-être vous y reporter.
156 mètres de longueur, le plateau, 57 de profondeur et 15 mètres de hauteur.
Voilà.
J'ai ça dans la tête.
Non, mais c'est bien d'avoir ces mesures-là en tête.
C'est vrai
quand même
que c'est impressionnant dans cette espèce de d'architecture d'usine désaffectée, désossée. Il y avait un petit air d'Avignon mercredi dernier lors de la première, parce que il fait encore beau. Nous étions tous en tenue d'été.
Ça commence à 17h30
en plus. Ça commence à 17h30. Voilà, moi j'ai l'impression que le mois d'août n'avait pas existé, c'était volatilisé. Et nous voilà plongés dans une pièce qui effectivement en revanche n'a rien de léger. Le parti pris de Castorf effectivement embrasse cette histoire. Donc il part de Dostoïevski, du roman originel, mais il y adjoint comme à son habitude, mais en tout cas là, plus particulièrement, des extraits de D.J. Stalingrad, qui est le pseudonyme d'un auteur journaliste russe vivant d'aujourd'hui, contemporain, qui écrit des romans sur la jeunesse russe contemporaine assez désespérée. Donc je ne sais pas si c'est du nihilisme ou pas, en tout cas si c'est ça peut-être le fil conducteur, en tout cas cette façon de raconter la Russie du 19e siècle au 21e siècle... Castorf s'y jette à corps perdu, ses acteurs aussi. C'est culotté, c'est féroce, c'est violent, c'est sans concession, avec la question centrale effectivement de la nécessité ou pas de Dieu et qu'est-ce qu'on fait, enfin, et de l'immortalité de l'âme. Et donc dès lors que toutes les barrières sont levées, tout est permis jusqu'au crime. Et à partir de là, c'est le grand lâchage. Et effectivement, des personnages de ces frères Karamazov à aujourd'hui, à ces jeunes gens dont parle D.J. Stalingrad, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est rompu et que cette jeunesse est plus en déshérence et plus désespérée que désespérante. En tout cas, elle se cherche, elle tâtonne, elle se cogne à des murs, elle s'en veut, elle s'automutile. C'est une version quand même très, très punk, moi je trouve très...
Oui, c'est post-punk ou avec un côté actionniste viennois aussi qui passait par là quand même.
Et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé l'implication des acteurs incroyables. Alors c'est vrai que c'est de l'allemand surtitré, donc ça dure plus de 6 heures, que c'est pas un exercice quand même évident comme ça, mais on est pris par cette tourmente, par ce propos tourmenté où il ne donne pas de réponse, mais il questionne, il va loin, il nous met mal à l'aise, il nous confronte nous-mêmes à ces montées de nationalisme, au rejet de l'autre, à la peur de ce qui nous est étranger ou différent. J'ai pensé aussi finalement à Rocco et ses frères à un moment donné. Alors est-ce que c'est le côté cinéma, est-ce que c'est ces histoires de frangins, des petites frappes comme ça qui se retrouvent dans des endroits où ils sont déracinés, où ils ne savent plus trop sur quoi cogner. Alors ils cognent autour et puis ils se cognent entre eux et ça finit par le meurtre du père évidemment, parce que peut-être qu'il faut tuer le père pour passer à autre chose.
Non, je vous laisse sur cette suspension avant de revenir vers vous, Marie-Josée, mais écoutons René Solis et ses impressions premières sur ses frères Karamazov.
Oui, alors, spectacle monumental dans un lieu monumental. Hein, il faut peut-être dire que dans la fameuse usine Babcock, on a fabriqué des chaudières et que...
ça, voilà, chauffe, c'est pas, ça chauffe bien, oui.
Pas complètement... voilà, on dit toujours que les lieux sont chargés de leur histoire et, en l'occurrence, c'est plutôt effectivement très bienvenu. Oui, 150 mètres d'ouverture de plateau, ça veut dire que le regard est très étrange pour un regard au théâtre. On n'a pas l'habitude hein, d'aller chercher très loin à l'horizon. Et d'ailleurs, il y a un des horizons côté, on va quand même dire que oui, c'est quand même linéaire, donc on peut parler de
côté jardin
et cour, donc ouais. Un jardin. Tout au fond, très 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 loin, il y a un panneau Coca-Cola en russe, rouge, et ce rougeoiement est assez clairement une citation de l'enfer, puisqu'il y a quand même une cette présence-là et ce fil de l'enfer tout au long du spectacle.
Moi, j'ai cru qu'il y avait marqué Coca. Cara, moi.
Je crois que c'est Coca-Cola.
Ouais, mais c'est parce que je vois pas très russe, bien, mais voilà. D'accord.
Alors, il y a du russe, hein. Il y a du russe au début. Il y en a, ça revient régulièrement de façon presque comique. Des fois, il y a comme un graffiti, en russe sur le, au devant qui dit, Prodayuk Vart, alors attendez, Prodayuk Vartiru, ça veut dire, je vends un appartement. Et puis, il y a un numéro de téléphone. Alors, on sent bien comment Kassorf, il est spécialiste effectivement de, on va dire, des poupées russes, il emboîte des tas de choses. Donc c'est un spectacle qui emboîte beaucoup de choses. Et en même temps, on peut dire que c'est un spectacle fatigant, comme souvent les spectacles de Kassorf, parce que ça sollicite énormément de choses, d'écho, c'est jamais linéaire, donc on passe sans arrêt d'une chose à l'autre, il y a des scènes en simultané. Et en même temps, ce spectacle-là est certainement un des spectacles les plus réussis de Kassorf ces dernières années, avec deux parties très différentes. Alors, il y a une première partie que j'ai trouvée, qui est celle que j'ai préférée, où justement, d'une certaine façon, on a l'impression qu'il fait moins le malin que ce qu'il a coutume de faire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très resserré avec son usage de la vidéo. Hein. C'est quand même évidemment... on peut dire presque le maître, pas le précurseur, mais celui qui a fixé il y a 20 ans l'usage moderne de la vidéo au théâtre. Et là, il y a un usage de la vidéo qui, vous parliez de Rocco et ses frères, Marie-Josée. Moi, j'ai aussi évidemment beaucoup pensé au cinéma, parce qu'il y a une façon de filmer qui, moi, m'a fait penser à tout à fait autre chose, c'est les films de Cassavetes. C'est-à-dire la capacité à faire du théâtre en gros plan. Finalement, c'est ça, les films de Cassavetes. Et donc, il y a une façon de filmer les acteurs de façon à la fois en gros plan et en tournoyant, c'est-à-dire on tourne sans arrêt autour d'eux, mais on ne les lâche pas. Et c'est tout à fait magnifique parce que c'est tout à fait tenu pendant plus de 2 heures de cette première partie. Et on est vraiment centré sur les acteurs et sur des performances d'acteurs qui sont, comme toujours, on a envie de dire chez Kassorf, mais encore une fois formidables parce qu'ils ont une espèce de... Il donne l'impression d'une liberté absolument inouïe, comme si il pouvait improviser, comme si aucun accident ne pouvait les surprendre, parce qu'ils sont toujours capables de rebondir sur quelque chose. Donc il y a une espèce de formidable liberté, et donc on suit évidemment les frères et tout ça, mais en même temps on peut pas dire qu'on suit forcément très bien le roman, parce que on entend beaucoup de choses. Et on entend beaucoup de choses du livre, et on entend tout ce que vous avez dit sur le questionnement, le déracinement de la jeunesse, etc. Et en même temps, d'une certaine façon, on n'y comprend rien, et d'une certaine façon, c'est pas très grave.
Bon, je dis ça comme ça, je vais mettre un peu d'eau froide dans la chaudière pour tempérer tout cela. Moi, je suis resté complètement à l'extérieur de ce spectacle. Mais, alors, il y a une raison, c'est vrai, pratique, hein, qui est cette grande ouverture de plateau, et pour peu qu'on soit placé plutôt sur un côté, ce qui fut mon cas, et qu'on n'est pas germanophone, on passe quand même beaucoup de temps à essayer d'attraper les surtitres au détriment de ce qui peut se passer sur le plateau. Alors certes, c'est compensé par le fait que la vidéo qui... presque totalement concerne ce qui est hors champ, ce qui n'est pas visible sur le plateau, parce qu'il y a plusieurs petites maisons, cabanes, coulisses, couloirs de palissades. C'est normalement là que les scènes filmées ont lieu, et donc elles sont projetées sur un écran alors qu'il n'y a personne sur le plateau. Donc là, on peut dire qu'on est un peu comme au cinéma, ce n'est que les sous-titres sont devenus donc des surtitres. Mais là encore, l'écran n'est pas si grand pour qu'il y ait un confort tout à fait formidable. Bon, mais ça, c'est du formel, mais c'est quand même, ça compte malgré tout. Mais bon, moi, j'ai toujours ce même problème avec, en tout cas, depuis un certain temps avec Frank Kastorf, c'est-à-dire qu'il place le curseur dans le rouge dès le départ. Et ce sera comme ça pendant près de 6 heures. Tous les comédiens passe quand même beaucoup de temps, et c'est pour ça que je disais l'extrait était relativement significatif, à hurler leur texte sans beaucoup de variations. Et du coup, ça m'a donné une impression de monotonie assez pénible. Et le fait est que la vidéo m'a pas non plus bouleversé dans sa réalisation. Vous évoquez Cazalès. Comme vous y allez, j'aurais bien aimé pouvoir me faire cette réflexion-là, parce que j'ai trouvé que cette façon de filmer était plutôt redondante avec le jeu déjà très outrancier des comédiens, avec les très gros plans d'acteurs criants. Bien sûr, j'imagine que ça cherche à renforcer l'intensité, la violence, mais ça m'a pas paru nécessaire. Donc voilà, pour moi, ça passe quand même beaucoup, beaucoup en force, mais ça génère pas forcément une intensité dramatique à la hauteur. La question de l'intégration du texte contemporain, je suis pas non plus tout à fait persuadé tout le temps de la pertinence de ces incursions de DJ Stalingrad, c'est encore une autre question que je pose là. Mais alors, non, sur la vidéo, il faut quand même dire que ça représente une part plus que majoritaire du spectacle. On n'a pas le chronomètre en main, René Solis, mais
oui,
c'est
non, mais
beaucoup, beaucoup de temps.
Ça représente beaucoup de temps. Alors effectivement, c'est ce qui permet de pas se disperser complètement.
Oui.
Donc c'est vrai qu'il y a un contraste entre cet écran relativement petit et l'immensité. Mais en même temps, moi, je trouve qu'en tout cas, dans toute cette première partie, je trouve qu'il y a une grande tenue dans cette et unité de esthétique dans cet usage de la vidéo. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment et particulièrement réussi. Je trouve que ça se complique un peu dans la deuxième partie, où ça repart dans des directions un peu de tous les côtés. On s'y perd alors carrément, et on s'y fatigue effectivement. Je ne suis pas non plus totalement convaincu que l'intégration du texte russe contemporain et cette espèce de passage de Karamazov et du 19e siècle à la Russie d'aujourd'hui fonctionne parfaitement, et en même temps, comme toujours chez Castorf, ce genre de rapprochement d'incongruité crée à certains moments des moments étonnants.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il y a une scène, il y a tout un développement sur les hooligans et sur il y a les hooligans opposés. Il y a des hooligans nazis et des hooligans antifascistes. Et tout d'un coup, remettre Karamazov dans cette histoire-là, quand même, on entend tout d'un coup des choses étonnantes. Ça bouscule, et donc cette façon d'être bousculé, et moi je continue à aimer ça dans le théâtre de Castorf. Mais c'est vrai que la cinquième et la sixième heure, on peut quand même un peu les sentir passer et se dire que il y a un côté répétitif, il y a un côté effectivement un peu monotone. Mais moi je trouve pas que les acteurs passent leur temps à hurler. En tout cas, je l'ai pas senti comme ça. Saluer quand même cette formidable actrice du théâtre allemand qui est Jeanne Balibar, qui s'amuse visiblement beaucoup à ça. Ça fait longtemps qu'elle est avec la Volksbühne, ça fait une quinzaine d'années qu'elle y va, qu'elle fait des spectacles avec eux, et elle est impérialement à l'aise, on peut dire, dans cette atmosphère-là. C'est vrai que c'est assez drôle de la voir comme ça.
Marie-Josée Sirache.
Alors, je suis d'accord quand même sur l'image vidéo n'est pas transcendante, c'est-à-dire qu'on n'est pas quand même bouleversé par la qualité de l'image proposée. Mais peu importe.
Je suis pas complètement d'accord.
Parce que finalement on est pris. Ce qu'il va chercher avec l'image, ce que effectivement vous disiez, c'est le hors-champ, ce qu'on ne voit pas. Donc il va aller au plus près. En même temps, on voit des choses assez fortes quand ils sont la tête dans leur soupe, enfin dans leur chou, dans leur bon. Bref, il y a des choses assez roots pour. Alors moi je trouve que ça fonctionne quand même entre Dostoïevski, DJ Stalingrad, et au milieu il y a du Vysotsky, il y a des auteurs du XXe siècle, c'est-à-dire qu'ils nous brossent un portrait de la Russie tsariste, soviétique et poutinienne, et c'est là où il est très habile Castorf, c'est là où il est intelligent, parce que finalement ce qu'il nous dit quelque part, c'est que peut-être on a troqué une église contre une autre église, et puis à nouveau aujourd'hui il y a une nouvelle église qui est celle de Poutine, avec en plus le renfort des popes. Alors voilà, tout ça et donc ça y a l'idée de cet homme russe qui est porté par Dimitri, qui est quand même celui qui je sais pas, il est plus attendrissant peut-être même que les autres, parce que c'est le plus paumé, il veut aller jusqu'au bout de ce qu'il veut, il n'y arrive pas, il se fait entraver par ce père qui l'a maltraité, lui et les autres. Sur les acteurs, moi je trouve pas non plus qu'ils crient tous. Par exemple, l'actrice qui joue Smerdiakov, elle est magnifique. La première scène où on la voit avec son père, où elle est à moitié muette, à moitié autiste, elle est formidable.
Je retiens cette scène-là, moi aussi,
exception. Elle est quand même incroyable. Elle a un jeu, elle dégage quelque chose dans des silences, elle a des regards de travers, elle est prégnante, enfin. Et par exemple, la scène à la reprise, alors c'est vrai que peut-être à la fin, il y a la fatigue, et j'avoue que ça se dilue un peu, et que vous aviez raison, on comprend pas tout le temps, mais c'est pas très grave finalement. Mais le démarrage sur le toit de l'usine, le monologue du grand inquisiteur, c'est magnifique, avec cette vue plongeante sur la Courneuve. Il y a un côté New York, enfin je sais pas, moi c'est complètement hallucinant, avec le coucher de soleil, les lumières de la ville, et lui qui est là, qui balance son monologue, c'est quand même très très beau, ça, c'est assez voilà, je trouve qu'il y a de belles choses, c'est du beau travail, quoi, c'est quand même intéressant, ça donne à réfléchir, on n'est pas, voilà, malgré quelques failles, mais enfin bon.
Non, mais je mettais un peu d'eau froide, mais elle était plutôt tiède, en fait. Ouais. Même si, voilà, il y a toute cette matière que vous évoquez, qui est riche, qui est pas toujours très lisible par moment. C'est peut-être cette difficulté-là que nous avons ressentie, en tout cas nous trois. Mais bon, ce spectacle se poursuit jusqu'au 14 septembre, donc il reste quand même peu de dates pour vivre cette expérience. Mais on n'allait pas rater ce passage de Franck Castorf du côté de la région parisienne. C'est pas si souvent qu'on peut voir son travail. Soit ses frères Karamazov à la friche industrielle Babcock à la Courneuve. C'est dans la programmation de la MC93 et c'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure de « Réparer les vivants » d'après Maëlys de Kerangal par Emmanuel Noblet à l'affiche du Théâtre du Rond-Point. Nous aurons quelques recommandations ou échos donnés par nos critiques aussi dans un instant. Mais avant tout cela, nous suivons Lucille Como dans le Petit Salon. Bonsoir, chère Lucille. Alors, ce n'est pas un scoop, ça ne devrait pas l'être, mais vous me l'avez dit avant de commencer cette émission. Vous avez un ami?
J'ai un ami parmi d'autres. Un ami
Oui,
c'est un ami.
Ah, d'accord, c'était le début d'une phrase.
Voilà, j'ai un ami.
Ah, bon, ça me rassure.
Qui, quelque chose, voilà.
Ah, vous avez un ami qui?
Alors, j'ai un ami qui travaille régulièrement avec une compagnie de théâtre, figurez-vous.
Drôle d'ami.
Il y a 3 ans environ, ils avaient décidé de monter un grand roman russe, Les Frères Karamazov. Quand il m'en a parlé, comme je suis quelqu'un d'extrêmement scolaire qui adore les catégories, je me suis dit, c'est un travail de dingue sur le texte, c'est une idée absurde, en plus c'est un texte tellement abstrait, avec des niveaux de lecture à n'en plus finir, bref, n'importe quoi. Quelques mois plus tard, l'ami en question, à qui je demande des nouvelles du projet, un peu ironique, me dit, non mais on a laissé tomber, Bellorini est déjà dessus. De fait, en cette rentrée théâtrale, pas moins de 2 Karamazov ont éclos, donc celui de Jean Bellorini qu'on a pu voir à Avignon et celui de Franck Castorf. En ce moment se joue aussi 2666 par Julien Gosselin, on en parlera ici même la semaine prochaine, l'adaptation d'un roman de Roberto Bolaño, 1353 pages. Dans quelques instants, il sera question de Réparer les vivants d'après le roman de Maëlys de Kerangal, et puis dans quelques semaines, on pourra voir Les Français, une adaptation libre de La recherche du temps perdu par Christophe Warlikowski. Carrément. Fleurissent donc les grandes œuvres narratives sur scène et ce que ça implique, de travail préalable sur des textes pas initialement faits pour le théâtre. Les metteurs en scène s'en sortent diversement, coupures dans le texte évidemment, multiplication des niveaux de parole, dialogues, longs monologues qui prennent en charge le récit, quand il n'y a pas un narrateur sur scène. On a aussi parlé du soutien de la vidéo qui n'est pas sans lien avec ce choix de texte touffu. Il y a de toute façon, dans tous les cas, un travail particulier sur le texte, travail qui reste relativement inaccessible au spectateur, mystérieux, assez fascinant d'autant plus s'il n'a pas lu le roman. Autrement dit, le travail proprement dramaturgique. Jean Bellorini a fait ce travail lui-même avec un des comédiens de sa troupe. Julien Gosselin a travaillé seul sur le texte, comme il l'avait fait déjà pour son précédent spectacle, déjà une adaptation de roman, en l'occurrence Les Particules élémentaires. En Allemagne, tout bon metteur en scène a son dramaturge, comme on dit là-bas, ça n'a pas exactement le même sens qu'en France. Castorf a travaillé avec Sébastien Kaiser, Thomas Ostermayer par exemple ne monte rien sans Peter Kleinert. Les Français, eux, se coltinent ce travail littéraire dans l'intimité, selon cette tradition très française, peut-être, du metteur en scène roi, qui, de la rature sur la page jusqu'aux plus techniques éléments de scénographie, sont maîtres de tout. Lorsque le texte est aussi peu instinctivement théâtral qu'un énorme roman 19e, c'est risqué. Pour en revenir à mon ami du début, Celui qui, justement, en bon dramaturge, devait travailler sur les frères Karamazov, il travaille finalement sur la mouette.
Bon, ça aurait pu être, effectivement, alors Céline, Proust, Bulgakov, évidemment, on a ces dernières saisons, et même si ça fait un certain temps que ça dure, vu quand même de plus en plus, me semble-t-il, d'adaptation de romans. Donc poursuivons cette discussion autour de cette thématique. On pourrait faire un autre petit salon, Lucille, sur l'adaptation des scénarios, parce que évidemment ça c'est une nouvelle vogue très importante, mais c'est pas la même histoire hein, du tout. René Solis, première réflexion sur ce sujet.
Oui, effectivement, c'est tout à fait intéressant, et c'est tout à fait intéressant à la lumière de l'actualité, parce que on a là trois propositions. On parlera de 1666 la semaine prochaine, mais qui sont trois options radicalement différente de l'adaptation. Alors, 2666, on y reviendra, c'est ce qu'on pourrait appeler du théâtre récit ou du théâtre feuilleton, donc extrêmement fidèle à la trame originale.
À la structure,
à la structure
roman,
même du roman, il est très 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 fidèle. Castor, c'est quoi qu'il a déjà été plus loin dans la recréation des œuvres, les œuvres prétextes. Là, il suit quand même à peu près un certain nombre de choses, mais évidemment, il met d'autres textes, des chambres d'écho, et donc il réinvente complètement son Karamazov. Voilà, et c'est une espèce de voyage à travers l'œuvre, et il ne prétend pas du tout donner une lecture comme ça complète de l'œuvre. Et puis, on va en parler tout à l'heure, mais sur
Emmanuel Noé, les vivants,
on a là plutôt l'exemple de ce que j'appellerais peut-être une adaptation quasiment musicale, c'est-à-dire quelque chose où il a beaucoup travaillé sur les voix et les différentes voix du roman. Et il essaye de les mettre en musique, hein. Ce serait plutôt de cet ordre-là. Donc on voit bien qu'il y a trois options très 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 différentes. Et oui, ça reste quand même extrêmement fécond, hein. Moi je suis souvent quand même frappé par la capacité des metteurs en scène à inventer des choses à partir de ce matériau. Donc oui, je crois qu'il faut se réjouir que les romans soient aussi du matériau de théâtre.
Oui, et puis de plus en plus, et puis il y a des metteurs en scène, on parle de Varlikovski qui le fait de plus en plus, et lui aussi fait du montage, on aura l'occasion d'en reparler quand les Français seront présentés, je crois que c'était à Chaillot, au mois de novembre, me semble-t-il. On en avait parlé lorsqu'on l'a vu à Clermont-Ferrand en début d'année 2016. Je pense à Guy Cassiers aussi, qui a quand même adapté énormément de romans. Je pense au Maître et Marguerite, je l'évoquais tout à l'heure, qu'on avait pu voir.
Puis à Christiane Lupa.
Christiane Lupa et Thomas Bernard. Pas toujours du théâtre. Lucille,
j'avais l'impression que c'était pas très français, justement, que c'était quelque chose qui était réservé à un théâtre plutôt de l'Est, justement, allemand ou polonais ou autre.
L'impression qu'il y a...
Et que les Français anglais, commencent flamand. Un peu à
Si,
à
faire Antoine ça. Vitesse, un de ses premiers grands spectacles, c'est Les Cloches de Bâle Aragon. Georges Lavaudant a beaucoup travaillé avec des matières romanesques, bon, le Clésio, mais beaucoup d'autres. Non, c'est pas... Je pense que c'est aussi pas mal fait en France.
Ça vient, et c'est vrai que peut-être davantage encore chez les plus jeunes. J'évoquais les deux courts spectacles de Rodolphe Dana qu'il a présenté au Théâtre de la Bastille en fin d'année. C'était Céline et Proust, rien que ça, une heure chacun pour Le Voyage au bout de la nuit et pour La Recherche. On voit bien qu'il s'agit évidemment de faire des prélèvements. Marie-Joëlle Sirach, est-ce que ça vous inspire?
Non, mais il est vrai que le roman est un matériau littéraire qui peut-être permet une plus grande liberté au metteur en scène. En tout cas, ça lui permet d'offrir au spectateur sa lecture, son analyse, d'offrir d'autres entrées que la lecture première ou linéaire que l'on peut avoir tout seul en tête-à-tête avec son livre. Le travail remarquable de Gosselin pour 2666, voilà, c'est... Ou même, auparavant, avec les particules élémentaires, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à rendre compte du roman, voilà, à l'incarner sur le plateau, et le passage à cette incarnation-là, c'est le plus délicat, donc c'est en même temps un défi, c'est parce qu'il n'y a pas effectivement tous les points de repère qu'on peut avoir dans une partition dramaturgique classique, mais ça permet de la liberté, de l'audace, d'expérimenter, de découper le texte, d'inventer des monologues, enfin d'insérer des monologues à des endroits où inattendus, surprenants, voilà, il y a quelque chose de peut-être de la jubilation devant la page vierge et le plateau vierge là-dedans. Mais il me semble que Toutefois, alors c'est vrai, c'est curieux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes metteurs en scène aujourd'hui qui s'intéressent au roman, à l'adaptation de romans. Pour autant, il y a eu une époque où on laissait croire qu'on s'intéressait à ça faute d'auteurs contemporains. Et j'aimerais quand même juste rappeler qu'en écriture contemporaine, en France, il y a quand même des auteurs, des jeunes auteurs dramatiques qui sont publiés, que ce soit au Solitaire, chez Actes Sud, à l'Espace 34.
À l'Arche.
À l'Arche, voilà. Donc, il y a quand même un vivier d'auteurs dramatiques, d'écriture contemporaine. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'on les oppose ou qu'on les oublie, mais en tout cas, il ne faudrait pas les oublier.
Oui, vous avez raison.
C'était un discours qu'on avait entendu il y a 20 ans sur ça. Oh, mais Dostoïevski, parce que franchement, les auteurs contemporains, ce n'est pas très intéressant. Bon, je pense qu'on en est revenu. C'est peut-être plus difficile parce qu'ils sont moins connus. Alors, peut-être il y a ça, il y a aussi une question économique derrière. Évidemment, quand on annonce qu'on va monter un Dostoïevski, c'est peut-être plus vendeur que si on annonce qu'on va monter Claudine Galéa ou voilà, pardon.
Non, j'allais dire on va mettre un bip pour vexer personne avec un nom d'auteur, mais
non, mais, non, mais je, auteurs, je le dis avec beaucoup d'affection. C'est-à-dire, oui, je parle de Claudine Galéa parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Mais elle peut monter au regard de la qualité de son travail d'écriture. Donc voilà, voilà.
Il y a quelque chose de très pratique quand même pour les metteurs en scène d'adapter des romans, me semble-t-il. C'est-à-dire que bon, ils adaptent ce qu'on appelle communément des chefs-d'œuvre, mais en tout cas des œuvres qui sont restées. Et dedans, ils prélèvent exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire les sujets qui les intéressent. C'est un travail de prélèvement, et à ce que vous disiez, hein, quel type d'entrée on veut avoir sur l'œuvre. Quand on adapte les frères Karamazov, on peut évidemment pas tout prendre. 2166, c'est la même chose. Enfin, tous ces grands romans charrient tellement de choses que même si on en met beaucoup, on choisit des niveaux de lecture, René Solis.
Oui, moi je suis d'accord avec vous. Et du coup, ça permet d'introduire un bémol que vous introduisiez aussi, hein, Marie-Josée, avec votre toutefois. C'est-à-dire que, effectivement, quand on prend un chef-d'œuvre de la littérature, on peut dire que c'est moins difficile que ce qu'on prétend.
Je crois aussi qu'il y a une certaine facilité.
On dit toujours qu'est-ce que c'est difficile d'adapter. Mais je ne suis pas certain que ce soit si difficile. Il y a tellement de matière.
Et c'est plus facile de faire long. Et pour en avoir parlé avec Julien Gosselin, il est tout à fait d'accord.
Et donc, quand il y a des structures dramatiques en plus extrêmement fortes, etc., c'est peut-être pas si compliqué que ça. Et donc, l'idéal...
Ça peut être assez payant, finalement.
10 heures de spectacle, un roman énorme, quelle difficulté. Je ne suis pas complètement convaincu, moi, que ce soit si difficile.
Je suis d'accord avec vous. Un dernier mot, Lucille Comeau.
Je ne suis pas sûre, moi, que ce soit si simple que ça. Je ne suis pas sûre, surtout, que choisir un angle soit plus simple quand on lit un roman ou quand on adapte, enfin, quand on monte une pièce de théâtre. Par exemple, dans Les Frères Karamazov de Jean Bellorini, moi, à mon avis, ce qui ne marche pas dans le spectacle, c'est justement qu'il a choisi quelque chose
absolument
de très petit et que la masse du roman fait que ça ne donne pas une pièce satisfaisante. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'un problème d'adaptation, là, pour le coup.
Non, mais c'est vrai qu'il a... faire le choix, en tout cas, c'est faire le choix de ses propres obsessions, ses propres questionnements. On peut faire un choix, je suis d'accord avec vous, voilà, la façon dont c'est centré sur Alyosha chez Jean Bellorini pose question sur la façon dont on voit cette œuvre-là.
Oui,
René.
Mais moi, ça m'a beaucoup intéressé, le spectacle de Bellorini, que j'ai beaucoup aimé, moi. Et il y a une chose qui m'a justement intéressé, c'est qu'il y a un parti pris, oui, de centrer sur le personnage d'Alyosha, mais il y a surtout une attention extraordinaire à un thème très présent tout au long du roman et qui n'est absolument pas traité par Castorf, qui est celui de l'enfance. Et il s'intéresse aux enfants. Et j'ai trouvé ça plutôt très beau et très réussi dans Bellorini. J'étais très sensible à cette attention permanente portée à l'histoire de l'enfant battu par ses camarades, qui est celui qui meurt et dont le père a été humilié. Et il y a là-dessus, tout d'un coup, une espèce de volonté, justement, de donner une lecture et sa lecture, et je suis moins pas gêné quand on prend un petit morceau et que on le travaille, parce que je trouve que en le travaillant, et c'est ce que j'étais très sensible à ça dans le spectacle de Bellorini, je trouve que en travaillant ça et en prenant le risque, pour le coup, justement, de prendre un fil et de s'y intéresser vraiment, alors on arrive par un petit bout à dire beaucoup de choses d'une vérité du roman. Donc moi je suis un défenseur des Karamazov de Bellorini, que je trouve un très beau spectacle.
Eh bien, on en parlera peut-être avec vous au mois de janvier quand le spectacle reprendra. En tout cas, on finit sur cet éloge, le petit salon du soir. Place à présent, aux recommandations de nos critiques présents ce soir. Alors du coup, qu'on a pris beaucoup de temps, et ce qui est très bien avec ce petit salon fort riche, on va être relativement bref. Mais comme je vous ai demandé un là et l'autre, peut-être un retour sur l'été. Marie-Josée disait, il n'y a pas eu de mois d'août. Si, il y a eu un mois d'août. Et au mois d'août, c'est le festival d'Aurillac. Non, c'est vrai, on ne parle pas dans cette émission qui s'arrête généralement au mois d'août. Donc c'est l'occasion, René Solis, d'en évoquer quelques souvenirs.
Oui, je voudrais quand même dire, moi je vais assez rarement au festival d'Aurillac, mais j'y suis allé régulièrement, voilà, tous les 4 ans, 5 ans. Et à chaque fois que j'y vais, je suis frappé par l'extraordinaire qualité, pertinence, intérêt des spectacles que je vois des artistes des arts de la rue. Et je suis toujours aussi un peu sidéré de voir que les programmateurs de théâtre, le réseau théâtral, à quelques exceptions près, s'y intéressent aussi peu. Alors, j'ai vu des spectacles vraiment formidables, passionnants, d'un niveau de qualité esthétique assez remarquable. Donc, trois, très vite. Le premier, c'est le groupe Zur. Le groupe Zur, ça fait à peu près 25 ans qu'ils existent. C'est des gens qui sont issus des Beaux-Arts d'Angers, donc qui viennent des arts plastiques, et qui font depuis 25 ans une œuvre absolument inouïe, qui est inclassable à la lisière de l'installation, de la performance, du cinéma et du théâtre. C'est magnifique. Le premier spectacle que j'avais vu d'eux, c'était ils projetaient des films dans des gouttes d'eau. Et c'est des maîtres de la lumière et de la projection. Leur spectacle pourrait être, c'est du cinéma, il y a un film, on est dans un cinéma en plein air et puis on crève l'écran, ou plutôt un acteur crève l'écran, le public passe à travers l'écran, on se retrouve dans une espèce de plateau de tournage totalement enchanté et délirant et magnifique. Ça pourrait être présenté en fait à Cannes, à Avignon, dans une biennale d'art contemporain, c'est inclassable et du coup ça ne tourne pas ou à peu près pas. C'est des gens, c'est des très grands artistes, le groupe Zur. Prochainement, malheureusement, aucune date.
D'accord.
Deuxième coup de cœur.
Plus rapidement, pardon, oui, plus René. Vite.
Alors, des tout jeunes, 0 avril, Association Roure, à Marseille, très influencés par eux, par le théâtre contemporain, par Macaigne, par Philippe Ken, par Rodrigo Garcia. Un spectacle improbable du plein air, là aussi. Avant le spectacle, un quart d'heure avant, ils proposent à 70 spectateurs de se transformer en fantômes. Ils leur enfilent un drap sur la tête et c'est parti pour une espèce de choses un peu délirantes sur la vie après la mort et la vie fantomatique. C'est complètement improbable, foutraque, mal foutu et par moments totalement génial. Voilà, ils ont 25 ans, c'est formidable.
Donc à programmer.
On a envie de les... Pas programmé non plus.
À programmer.
Et le dernier, lui, est programmé. Alors, quand même, Théâtre de Châtillon, festival qui commence le 24 septembre, qui est le festival Playmobil au Théâtre de Châtillon. Et là, on est complètement dans autre chose. C'est la performance interactive pour un spectateur. Le spectateur est muni d'un smartphone avec un casque sur la tête et part dans une déambulation, d'abord dans les locaux, puis dans la ville, en suivant ce qu'il y a sur son écran smartphone, donc comme le Pokémon Go, sauf que en fait il rentre dans la peau d'un personnage qui est en train de vivre exactement dans les mêmes endroits que lui parcourt une autre histoire, et il y a une prouesse technologique, mais c'est pas du tout le but du spectacle, puisqu'il y a trois histoires extrêmement écrites. Donc on se met dans la peau d'un chômeur, d'un sans-papiers, d'un demandeur d'asile, et pendant une heure on vit cette espèce de vie virtuelle, et c'est d'une remarquablement intelligent, c'est excellent. Donc ici même, la compagnie First Life, oui. Aux armes, etc. Et c'est au Théâtre de Châtillon.
Vous connaissez. Ici même, ça fait longtemps qu'ils sont très très bons. Voilà. Donc, je suis ravi d'entendre parler d'eux. Merci René Solis. Rapidement, pardon.
D'accord, Marie-José très Sirache. Vite. Alors évoquer le du 13 au 17 septembre au Théâtre des Abbesses. Donc
81
avenue Victor Hugo, dans la mise en scène de Olivier Coulonja-Blanca. Spectacle qui a été créé en mai 2015 à la commune d'Aubervilliers, qui a été joué quelques dates, 2-3 dates au Festival d'Avignon en 2015. C'est un spectacle qui raconte, c'est un théâtre documentaire, je ne sais pas trop comment l'appeler, en tout cas qui met en scène la vie de 8 jeunes hommes qui ont traversé, défié les mers, qui ont traversé les passeurs, les raquettes, qui ont défié les polices, Frontex, tout ce qu'on veut, et qui sont arrivés en France pour travailler, qui sont sans papier. Pardon. Donc voilà, c'est le récit de ces récits de vie construits, extrêmement bien construits, parce qu'ils ont été réécrits par Olivier Coulonge-Blanca, et il y a une vraie direction d'acteur, c'est-à-dire que ce sont eux-mêmes.
Un vrai travail de théâtre.
C'est un vrai travail d'acteur, et ils rejouent leur propre vie sur le plateau, et c'est formidable parce qu'on n'est pas dans le compassionnel, on est dans une espèce. Ces hommes-là sont dignes et ils nous donnent une très belle leçon de dignité, de courage. Ça nous parle encore parce que c'est toujours d'actualité. C'était dans le cadre des pièces d'actualité initiées par Marie-Josée Malice.
C'est un très beau travail.
Et c'est un très beau travail.
Très important de le voir. Et c'est formidable que le Théâtre de la Ville, dans la salle des Abbesses, le programme à nouveau, 80 avenue Victor Hugo, mise en scène Olivier Coulonge-Blanca. C'est aux Abbesses, donc du 13 au 17.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous poursuivons cette dispute consacrée comme chaque lundi soir au spectacle vivant, avec un spectacle qui a fait sensation lors du Festival d'Avignon 2015, côté off, Réparer les vivants, d'après le roman multiprimé de Maëlys de Kerangal. Nous avions parlé avant l'été d'une autre adaptation scénique signée Sylvain Maurice. Cette fois, il s'agit de celle adaptée, mise en scène et interprétée par Emmanuel Noblet. Pour l'instant, l'affiche du Théâtre du Rond-Point apparaît qu'il va connaître une très grande tournée partout en France cette saison. Tendez l'oreille, parce qu'Emmanuel Noblet va certainement passer et jouer près de chez vous. Le sujet, je le rappelle, le trajet d'un cœur depuis le corps d'un jeune homme surfeur, victime d'un accident de la route, bientôt déclaré en mort cérébrale, jusqu'au corps d'une femme en attente de greffe. 24 heures entre le début et la fin de ce récit. J'ai choisi de ne pas diffuser d'extrait parce qu'on va avoir un peu plus de temps pour en parler tous les trois, puisque vous avez plusieurs amis, vous avez même un coup de fil à passer, Lucille Como, dans une dizaine de minutes, donc il ne faudrait pas empiéter là-dessus. René Solis, vous commencez sur ce spectacle d'Emmanuel Noblet. Après ce que vous en avez dit tout à l'heure sur la musique de ce montage.
J'ai parlé de la musique, effectivement. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu au-delà de la critique? C'est très difficile
Comment cela?
Aucune envie d'en dire du mal. Non, je veux dire que c'est un spectacle qui est tellement chargé d'émotions, rassembleur, etc. C'est, voilà, je veux dire...
Bon, ça, c'est vous qui le dites. Je
sentirais un peu gêné de je sais pas, d'aller chercher la petite bête sur telle ou telle chose. Non, ce que je me suis demandé, c'est pourquoi ça marchait aussi bien, en fait. C'est ça,
bonne question.
La question. Qui est intéressante. Alors, évidemment, il y a le livre au départ, et le livre, il a évidemment une... Vous parliez du compassionnel tout à l'heure. C'est drôle parce que c'est un mot que j'aurais envie d'utiliser et que je n'utiliserai pas de façon péjorative dans ce cas-là. Je trouve, moi, qu'il y a dans le roman de Maëlys de Kerangal quelque chose qu'il y avait aussi dans un autre roman qui a très bien eu beaucoup de succès, qui est celui d'Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne. Et dans les deux cas, il y a un peu la même chose. C'est-à-dire, il y a comment la mort, le deuil, l'accident redistribue complètement en chacun d'entre nous l'essentiel et l'accessoire. Et comment ce qui est dont on nous bassine tout le temps, c'est-à-dire l'égoïsme, la peur, le repli, etc., devient complètement accessoire par rapport à ce qui apparaît dans l'urgence et l'émotion extrême, qui est plutôt la générosité, le don, etc. Donc des choses extrêmement humaines et des choses qui sont mobilisées, que ce soit dans le roman de Carrère, mais aussi dans celui de Maëlys de Kerangal, de façon, je trouve, justement, c'est pas poisseux comme ça de bons sentiments. On n'est pas gêné d'être ému par ça. Donc évidemment, ça marche à cause de ça, et ça marche aussi, je pense, quand même, parce que l'adaptation, elle est non seulement bien faite, mais parce qu'il y a le corps de l'acteur qui compte beaucoup. Il est beau, il est jeune, et il a quelque chose en lui dès le début qu'il est le jeune homme. Du début, il est le jeune surfeur mort dans son accident de voiture à l'âge de 19 ans du début du livre et du spectacle. Et en fait, c'est ce corps-là qui, pour moi, donne dès le début au spectacle une espèce de crédibilité très forte, parce que ensuite il en joue, il fait tous les personnages, et il le fait de façon effectivement très musicale, c'est-à-dire de plutôt extrêmement bien en suggérant, et en même temps il a cette espèce de beauté solaire comme ça qui porte le spectacle, et je pense que c'est aussi pour ça que ce spectacle marche aussi bien.
Est-ce qu'il a marché sur vous, Marie-Josée Cirage, ce spectacle?
Oui.
Oui, c'est un petit oui.
Non, non, je trouve que c'est intéressant la façon dont l'aborde René. Effectivement, c'est-à-dire dans le monde dans lequel nous vivons, où l'individualisme prend un petit peu le pas sur tout, reparler de cette formidable chaîne humaine à partir de tout d'un coup la mort injuste et brutale d'un jeune homme de 20 ans, et puis toute la trajectoire pour que le cœur de ce jeune homme puisse redonner vie à une autre femme qui est en attente
d'une greffe.
Voilà, donc tout ça et tous ces personnages qui entrent en action, du médecin, de celui qui va du médecin qui va transporter le greffon, enfin tous l'infirmière, l'assistante, enfin bon, je trouve que tout ça est formidablement joué par l'acteur qui dès le départ effectivement moi je trouve qu'il rentre dans chacun des personnages, c'est-à-dire que moi j'oublie un petit peu au départ qu'il est ce jeune surfeur, même s'il a ce corps, il épouse le surf et on a l'impression que on le voit, il y a les premières phrases quand il est là sur la mer, cette hymne à la liberté à 6h du matin quand il n'y a personne et que tout d'un coup il se lance dans la vague. Et alors on est là, on se dit c'est là où il va mourir, et puis finalement il meurt bêtement dans un accident de voiture, et voilà. Donc je trouve que tout ça est très bien vu, c'est extrêmement bien joué, c'est voilà. Moi c'est bon, c'est pas ma tasse de thé, mais voilà, c'est pas très grave. Hein. Mais c'est vrai que le succès de cette pièce interroge. C'est-à-dire que à Avignon, dans le off, il a fait un tabac. Tous nos confrères y étaient allés.
Tous les programmateurs aussi.
Pas vous, René, pas moi.
Pas moi non plus.
Pas vous non plus. Aucun des trois n'est mauvais.
Pas eu le temps, élèves. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Tous les programmateurs y sont allés, donc cette
pour
pièce
une fois. On les félicite d'aller voir des choses.
Absolument.
C'est dommage qu'ils aillent tous voir la même chose.
Voilà.
Mais bon, ça c'est un autre problème, ce sera pour un autre petit salon, Lucille. Mais ça tombe bien, il y a 44 semaines dans la saison, donc
oui, voilà,
il faut des sujets. Hein. Non, mais on peste aussi contre les programmateurs d'une façon générale. Il y en a qui font formidablement bien leur travail, mais il y en a aussi quand même qui...
Non, mais je trouve qu'en tout cas, il ne trahit pas cette écriture.
Oui, oui.
Il y a le battement du cœur qui est là tout le temps, voilà, et qui, sans arrêt, ça rebondit. Et c'est très très beau, cette façon de...
Ouais, mais justement, alors j'ai beaucoup aimé beaucoup de livres de Maëlys de Kerangan depuis ses débuts. Alors c'est vrai que j'avais trouvé que le travail sur Réparer les vivants était tout à fait bien fait, mais justement, moi, il m'avait manqué l'essentiel, l'émotion. Alors on pourrait dire que l'adaptation d'Emmanuel Noblet est extrêmement réussie, puisque j'entends les mêmes faiblesses que j'ai entendues, que j'ai lues dans le roman. C'est vrai qu'on devrait être ému. On est ému, mais pas moi, ce qui n'est pas très grave. J'avais pas été du tout sensible pour le coup à l'adaptation de Sylvain Maurice, trop spectaculaire, qui est un montage qui retenait beaucoup de morceaux de bravoure avec une scénographie comme ça, qui jouait vraiment sur le physique. Le premier mérite, alors très grand d'Emmanuel Noblet, c'est d'avoir fait un montage que j'ai trouvé assez remarquable, hein, ce travail de voix et de musique qui respecte très bien les différents moments du roman, les différentes voix en effet qu'on y entend. Il faut préciser ici que certaines des voix sont enregistrées et que le comédien, il y a plusieurs acteurs qui ont prêté leur concours à ce travail, et que Emmanuel Noblet dialogue avec tel ou tel personnage. Gros bémol d'ailleurs, pardon, parce que je ne sais pas qui c'est, pour les voix des parents de Simon, donc le jeune surfeur mort, et singulièrement le père. Et pour moi, c'est quand même très dommage que ça sonne faux dans un spectacle qui est par ailleurs très juste. Mais il est juste, et là aussi, je vous suis tous deux sur le travail et d'Emmanuel Noblet, qui est quand même investi du premier au dernier instant du spectacle, qui nous fait vivre absolument formidablement tout ce parcours. Scénographie vraiment très minimale, donc il y a deux chaises, mais il y a de la vidéo qui a quand même son importance. Il y a cet écran en fond de plateau qui appuie ou illustre certaines séquences du récit, mais de façon très, très sobre. Ça peut être effectivement la ligne des vagues là, au petit matin, qui se distingue à peine. Ça peut être aussi des images de radiographie ou de scan médical. Donc, mais c'est très bien dosé aussi dans le spectacle, Mathilde Semblé, René Solis.
Oui, non, c'est... Bon, alors, moi, j'ai un des personnages, je trouve... allons-y dans les bémols.
Pas
trop. Je trouve que le chirurgien italien...
L'italien, oui, moi, je trouve que c'est too much. Mais bon, il est très italien, on va dire.
Il va un peu trop fort.
Mais il est comme ça dans le livre, en même temps. Hein.
Non, sur l'émotion... Enfin, moi, comment vous dire, j'étais pas en larmes. mais je trouve quand même qu'il y a, dans le livre, comme dans le spectacle, et comme je l'avais beaucoup senti disent dans le roman de Carrère, d'autre vie que la mienne, tout simplement un effet cathartique sur les lecteurs. Et donc, il y a une, tout d'un coup, enfin, on purge quelque chose.
Mais ce qui est étrange,
je pense
c'est
que c'est ça qui fonctionne.
Ce qui est étrange, c'est que ça faisait ça au spectacle de Sylvain Maurice, où les gens étaient debout à la fin du spectacle. Il y avait une adhésion absolument folle dans un spectacle qui, à mon sens, on en a parlé dans cette émission, j'étais pas le seul à le penser, d'une bien moindre qualité. Donc, il y a quand même quelque chose qui vient de l'énergie et du souvenir de lecture du roman, je pense quand même pour beaucoup de spectateurs qui ont envie de retrouver ces émotions qu'elles et eux ont eues. Et ils ont été très, très nombreux à avoir des émotions avec ce roman.
Oui.
On s'arrête là parce que le temps file et qu'on a un coup de fil à passer, Lucille. Réparer les vivants d'après le roman de Mélisse de Kerangal, donc adaptation, mise en scène, interprétation, Emmanuel Noblet au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 9 octobre. Très grande tournée pour ce spectacle. Il joue 130 fois dans la saison, Emmanuel Noblet. Je peux pas tout citer, on mettra le lien sur notre site internet pour dire que ça continuera en tout cas dès le 11 octobre à la Rose des Vents, Villeneuve d'Ascq. Ce sera à La Roche-sur-Yon, à Blois, à Valence, à peut-être des villes dont on parle moins, La Flèche, Beaucouzé, Beauvais, de quoi parle-t-on moins, de Vernon. Il y a toute une tournée dans les Pays de la Loire qui est organisée. Il y aura aussi Brest, Suresnes, Figeac, Aurillac, Rodez, Millau. On ne parle pas souvent de ces villes-là. Ben, tout cela, c'est jusqu'au mois de mai 2017. Et on va conclure cette émission dans quelques instants, depuis le temps que je l'annonce. On espère qu'il est au bout du fil avec Jean-Paul Angot. Mais avant cela, Lucille Comeau, le jeu de la dispute. Rappel du jeu de vendredi soir pour en connaître la réponse.
La question était Marie Ducret, Marie Drucker.
Drucker, voilà, c'est
voilà, ça. Voilà, interprète un des personnages clés de la série Le Bureau des légendes, créé par Éric Rochant, qui met en scène une antenne ultra secrète des services de renseignement français. Quel est son métier dans la série? Et la réponse est psychiatre.
Oh, moi, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais bientôt me rattraper. Ce soir, nous faisons gagner des exemplaires de France Culture Papier numéro 19, actuellement en kiosque et librairie. Quelle est la question?
Dans le numéro France Culture Papier, on peut lire un article sur les pays imaginaires, parmi lesquels un pays inventé par Hergé pour un numéro de Tintin. Comment s'appelle-t-il?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent, plus tant que je le dis, au coup de fil de Lucille Comeau.
Hello.
Et au bout du fil ce soir, Jean-Paul Angot, qui dirige la scène nationale de Grenoble, aussi appelée MC2, grand bâtiment moderne en partie circulaire, noir et blanc, jugé sur un parvis et relié à un autre bâtiment rectangulaire par un système de passerelles, le tout au croisement de la rue Paul Claudel et de la rue Gérard Philippe, tout un programme. Bonsoir Jean-Paul Angot.
Bonsoir.
La saison commence le 17 septembre prochain avec une création signée Jean-Claude Galota et Olivia Ruiz. Le spectacle s'appelle Volver. C'est la deuxième rencontre en fait entre le chorégraphe et la chanteuse. Sous quels auspices est-ce que ce spectacle place votre saison?
C'est une ouverture de saison, c'est aussi une création, c'est une avant-première par rapport au spectacle qui sera présenté ensuite à la Biennale de la danse, et puis c'est la poursuite d'une relation entre deux univers qui a priori semblaient pas évident à rapprocher, mais qui en fait le sont dans la réalité, celui d'un grand chorégraphe, Jean-Claude Galota, et puis d'une chanteuse dite populaire, Olivia Ruiz, mais qui est quelqu'un d'extrêmement singulier et qui s'intéresse, et qui s'était déjà rencontré lors de la création de L'Amour Sorcier, il y a déjà 3 ans, et qui avait décidé de continuer un cheminement, et ça donne ce Volver qui sera aussi d'ailleurs présenté un peu plus tard au mois de novembre au Théâtre National de Chaillot.
Mais grande place est faite à la danse dans votre programmation. On le voit très vite après, en octobre, on pourra voir un spectacle de Rachidou Ramdan. Rachidou Ramdan qui, avec Johan Bourgeois, dirige le centre chorégraphique de Grenoble depuis janvier. Qu'est-ce qu'ils ont insufflé tous les deux? Ils viennent pas du tout du même monde. Il y en a un qui vient vraiment de la danse et puis l'autre du cirque. Au lieu et à sa programmation, Jean-Paul Angot.
Non, ce qui est intéressant, c'est justement cette rencontre entre deux personnes qu'on peut qualifier du mouvement, indépendamment de leur spécificité chorégraphique pour l'un et circassienne pour l'autre. C'est surtout deux individus dont la pertinence artistique est indiscutable. Johan, qui est une apparition dans le nouveau cirque, comme on dit, même si c'est pas tout à fait ça dont on parle, une personnalité extrêmement importante avec des objets formidables, et avec donc celui qui tombe, qui est un peu un spectacle phare, qui tombe beaucoup et qu'on reprend. Et puis aussi Rachid avec plusieurs propositions dans la saison, puisque comme ils sont maintenant les nouveaux directeurs du Centre chorégraphique national, une place importante est laissée à leur projet de répertoire, en l'occurrence, qui est Ordre, donc qui a déjà été créé, mais qui n'avait jamais été présenté à Grenoble, et Sfumato, qu'on présente pour la troisième fois. Et c'est à la fois un travail de reconnaissance de leur geste artistique et aussi une fidélité possible pour un public qui voit et revoit ou peut voir leurs œuvres.
Une formule aussi de la MC2 dont je suis curieuse, c'est ce que vous appelez les grands bains, qui sont en fait des plongées au cœur du travail d'un artiste. Quelle forme est-ce que ça peut prendre? J'imagine que c'est très différent selon les artistes que vous convoquez.
Oui, en fait, c'est justement une initiative conjointe avec le Centre chorégraphique national, c'est de faire en sorte que la proximité entre les œuvres, les actes l'aspect artistique soit la plus courte par rapport au public potentiel. Donc c'est un peu ça, ça peut prendre toutes sortes de formes d'ateliers, de rencontres, mais en tout cas en proximité avec les artistes.
Jean-Paul Angot, dans le texte que vous signez, que j'ai lu à l'orée du programme, vous parlez pour nommer votre établissement de Maison de la Culture. Quel engagement est-ce que vous affirmez avec cette formule-là, Maison de la Culture ?
L'engagement inexorable, déterminé, que ces maisons existaient, elles ont entre 60 ans pour certaines un peu plus, 50 bientôt pour la Maison de la Culture de Grenoble en 2018, elles restent le cœur, un poumon, un phare, une rencontre, c'est très important de les vitaliser, de les revitaliser peut-être, mais en tout cas pour ce qui est de la MC2, de lui laisser sa fierté d'être et son rapport au public, avec évidemment la question importante du soutien public au sens financement, mais aussi au soutien public au sens de ceux qui le fréquentent. Et puis par ailleurs, une maison de la culture, c'est aussi une maison d'artistes.
Vous êtes également, Jean-Paul Langot, le président de l'Association des scènes nationales françaises. Quels sont, de ce point de vue, et puis rapidement, quelques enjeux particuliers pour l'année à venir ?
Pour ce réseau, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, peut-être, c'est de se dire étant soutenu par ce qu'on appelle les financements croisés, c'est-à-dire le rapport entre plusieurs collectivités et l'État pour apporter le soutien de ces maisons. Et donc, comme on le sait, les collectivités locales subissent des problèmes budgétaires et donc ces maisons sont atteintes. Donc, le premier enjeu, c'est de faire en sorte que cela se cesse de manière à ce que ces maisons gardent leur potentialité afin que le creuset qu'elles sont artistiques soit maintenu, parce que ce qu'on sait, c'est que tout recul de financement conduit inexorablement à un problème d'emploi et d'emploi artistique en premier lieu. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est peut-être aussi de se questionner par ailleurs, c'est ce que nous faisons au sein de l'association, se questionner aussi sur les pratiques et de construire les maisons de la culture de demain. Donc il y a aussi des enjeux de féminisation des directions, des enjeux de transmission des outils, des enjeux de formation des équipes de direction, des enjeux de re-questionnement de rapport au public. Donc tout ça fait beaucoup d'enjeux, comme on dit, et beaucoup de jeux au bout du compte.
Un grand merci à vous, Jean-Paul Angot. La MC2 à Grenoble fait sa rentrée le week-end du 17 septembre prochain. Elle sera ouverte tout le week-end pour les Journées du patrimoine. Et puis le 17, premier spectacle de la saison, Volver, Jean-Claude Galota, Olivier Ruiz. Merci.
Au revoir.
Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous Marie-Josée Sirache, Lucille Como, René Solis d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, comme vous pouvez podcaster À part pour les fétichistes le petit salon de Lucille Como. La dispute est possible grâce justement à Lucille Como, Daniel Finot, Virginie Leduo, Olivier Guérin, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Nicolas Delmas, réalisation Olivier Guérin. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma. Nous serons en compagnie de Muriel Joudet, Corinne Rondeau et Antoine Guillot. À notre affiche, Victoria de Justine Trier, Showgirls de Paul Verhoeven qui ressort en salle et Free State of Jones de Gary Ross.